Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI, grand reportage.
C'est l'une des plus grandes collections de disques en Europe. On trouve de tout à la discothèque de Radio France. Des chants malgaches des années 30, des discours de Charles de Gaulle, le bruit d'un moteur de deux chevaux, l'original d'Abbey Road ou les dernières nouveautés. Un patrimoine immense et vivant qui rythme au quotidien les antennes des radios publiques. À la chasse au trésor dans les allées de la discothèque de Radio France, c'est un grand reportage de Sarah Tisser.
Là, je suis en train d'actionner les compactus, donc ce sont des rayonnages mobiles.
Et ce sont des kilomètres d'étagères métalliques. Nous sommes dans un immense entrepôt de 4000 mètres carrés dans le nord de Paris. C'est là que sont soigneusement rangés les stocks de la discothèque de Radio France, sur lesquels veille Thomas Henry, responsable des collections.
Quand on se retrouve tout seul dans un lieu comme ça, ça donne déjà un peu le vertige. Hein. C'est un lieu chargé de mémoire, chargé d'histoire. C'est le patrimoine de la radio française. Donc c'est effectivement un grand hangar de plusieurs milliers de mètres carrés avec une belle hauteur sous plafond. C'est pas la bibliothèque d'Harry Potter tout en boiserie, non, c'est plutôt le bloc de béton et de métal.
Avec des kilomètres de rayonnage.
Ouais, c'est ça, donc un million de disques. Si vous voulez, il y a à peu près tous les disques qui ont été diffusés sur les antennes de la radio publique française depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Hermen, ouverture et marche, exécuté par l'orchestre colombien de Paris.
Une collection qui rassemble même tous les supports de l'histoire de l'édition phonographique, à commencer par ces curieux cylindres noirs.
On a tendance à dire que c'est l'ancêtre du disque. C'est pas tout à fait juste, c'est deux formats qui sont apparus à peu près en même temps, fin des années 1880. C'est plutôt le cylindre au départ qui a été utilisé. C'est un tube fait en cire.
Cire d'abeille ?
Cire d'abeille, exactement. Et c'est le même principe en fait que la surface d'un disque. Vous avez un sillon qui est enroulé en fait autour d'un tube. Celui-ci fait une dizaine de centimètres de long, quelques centimètres de diamètre. Et donc on enfilait ça dans ce qu'on appelle un mandrin sur un phonographe.
Le cylindre, ça ne va pas durer si longtemps que ça en fait.
Alors non, les derniers cylindres en France, c'est à la fin des années 1900, vers 1910, un petit peu avant.
Pourquoi le disque a-t-il pris le pas ?
Alors déjà, la qualité sonore n'était pas forcément parfaite. C'est très, très fragile d'ailleurs. C'est pour ça que ces supports sont rares, parce qu'il y en a énormément qui ont été détruits au fil des décennies. Dernière chose, vous voyez bien la place que ça prend, alors qu'un disque était plus fin, beaucoup plus facile à ranger, ça prenait beaucoup moins de place. Donc pour toutes ces raisons, le cylindre en fait a rapidement périclité.
Au début du XXe siècle, les disques plats prennent le dessus. Les 78 tours d'abord. La discothèque en conserve pas moins de 150 000, dont ceux de la première marque de disques de l'histoire, Berliner.
Là, on est au milieu des disques 78 tours. Alors, attendez, j'en sors un de sa pochette. Ici, on a un disque de la marque Berliner. Émile Berliner, c'est l'inventeur du disque plat, un ingénieur allemand expatrié aux États-Unis. Il n'a pas d'étiquette papier. Toutes les informations, le nom de la marque, le nom de l'artiste, le nom du morceau, tout ça est gravé directement dans la cire. Donc les 78 tours, ce sont les premiers disques. Le sillon est assez large et on peut mettre quoi, à peine 3 minutes par face. Effectivement, une intégrale d'opéra, ça peut être très volumineux, ça peut être sur une vingtaine ou une trentaine de disques. Et on a des exemples comme ça dans des très beaux albums.
Allô, allô, ici André Bauger, qui vous invite à venir entendre la suite dans Le Soleil du Mexique. Le grand succès actuel du théâtre du Châtelet.
Et des 78 tours, il en existe de toutes sortes et de toutes tailles, comme en témoignent ces curiosités dénichées par le responsable des collections de la discothèque, Thomas Henry.
Ah oui, ce disque-là, encore une petite...
Alors ça, on dirait un dessous de tasse
c'est
pour
pas
poser
un
sa bière. Ça n'est
c'est pas un sous-boc pour poser sa bière, même si, en fait, c'est un disque en carton avec un verso publicitaire. Vous voyez, on découvre une publicité pour le Théâtre du Châtelet. C'est une pub, en fait, pour une opérette qui s'appelait Au Soleil du Mexique, interprétée par André Bauger, qui était un des grands chanteurs de l'entre-deux-guerres. Et au recto, un sillon. Donc, c'est vraiment un disque qu'on pouvait jouer. C'est un beau musée de toutes les inventions possibles pour commercialiser les disques. Il y a des disques en carton et les fameux picture disques. Alors, voici un très bel exemplaire.
Ça, c'est Cendrillon.
Exactement, c'est un album qui a été commercialisé en 1950. On est à la fin du 78 tours, c'est les dernières années où on le fabrique encore en France. Et donc vous voyez, la surface entière du disque est illustrée et donc on a des personnages, des scènes du dessin animé.
Mm-hmm. Donc là on a Cendrillon en train de faire la lessive avec son reflet dans les bulles.
Alors c'est des disques, les picture disques, c'est plus des disques qu'on regarde. La qualité sonore n'est pas forcément extraordinaire. C'était des disques qui avaient aussi une visée décorative. Quoi.
Des picture discs aux surfaces illustrées, il y en aura tout au long du XXe siècle. Et la discothèque est riche de ces disques promotionnels assez rares. Tenez, 1980, le groupe Police sort Message in a Bottle sur un disque en forme d'étoile de shérif. À l'époque, on ne parle plus de 78 tours, car dans les années 50, on a inventé le disque micro-sillon, celui qu'on appelle communément le disque vinyle. C'est un peu un abus de langage, vous allez l'entendre, mais ce qui est sûr, c'est que cette révolution transforme le disque en objet de consommation courante.
On a ici le premier disque micro-sillon de l'histoire. Concerto de Mendelssohn par la marque American Columbia.
Un concerto de Mendelssohn enregistré par l'Orchestre Philharmonique de New York. Donc ça, c'est le premier.
Le tout premier.
En quelle année ?
1948. Et c'est une vraie révolution par opposition au disque 78 tours où le sillon est très large, donc la durée d'écoute est très réduite. Donc le micro-sillon, on peut mettre beaucoup plus de musique sur la surface du disque. C'était un vrai argument de vente pour les maisons de disques de dire... pour votre argent, vous aurez beaucoup plus de musique. Ils sont effectivement en vinyle, mais ça, c'est un autre sujet. C'est la matière avec laquelle on fait le disque. Les disques 78 tours étaient très souvent en gomme-lac et les disques micro-sillon en vinyle. Mais il y a eu des disques 78 tours faits en vinyle également.
Avec le micro-sillon, le disque explose et les rayons de la discothèque aussi.
Le chariot ORTF, bien sûr.
Vous avez encore les chariots ORTF.
On a les chariots ORTF et certains sont siglés à Discothèque Centrale.
Discothèque Centrale, le nom apparaît en 1944, mais une collection a en fait commencé à se constituer avant-guerre. En 1938, Maurice Dalloz, marchand de disques à Montparnasse, est chargé de rassembler des 78 tours. Objectif, alimenter les quatre radios d'État existant alors, Paris PTT, Poste Tour Eiffel, Radio Paris et le Poste Colonial, ancêtre de RFI. C'est ce que nous explique Virginie Vincienne, à la tête de la discothèque de Radio France.
Au départ, donc il y a 12 078 tours qui sont acquis. Malheureusement, la guerre arrive, les disques sont laissés sur place, ils deviennent propriété de Radio Paris. En 1944, beaucoup sont abîmés, sont à terre, certains sont cassés. Des 12 000, il en reste finalement 10 000. C'est là qu'apparaît pour la première fois le nom de Discothèque Centrale. Ils vont commencer donc à classer ces disques, à les ranger, à les documenter sur des fiches papier, etc.
Donc on commence à constituer une collection.
Alors, la collection, ensuite, elle s'est constituée surtout à partir des années 50, avec l'arrivée du micro-sillon. Ça a été une petite révolution dans la mesure où déjà on pouvait mettre plus de musique sur un disque, c'était un support moins fragile et donc il y a eu beaucoup plus de production et donc à cette époque-là en fait il y a eu des achats de collections, des achats auprès des éditeurs qui donnaient aussi des disques pour qu'ils soient diffusés aussi et au final dans les années 70 il y avait à peu près 1 500 000 disques. Alors il faut savoir qu'à l'époque il fallait passer les disques sur une platine et quand on à force de passer un disque il s'abîme et du coup on avait beaucoup d'exemplaires de chaque disque.
D'où la pratique baptisée « désherbage ». Régulièrement, la discothèque et sa trentaine d'employés se séparent des exemplaires multiples. Des ventes aux enchères ont même été organisées, la première en 2016 pour 8000 vinyles. Parmi eux, un album de Syd Barrett, fondateur de Pink Floyd, adjugé à plus de 10 000 euros.
Ça a très bien fonctionné. Ces ventes, en tout cas, ont montré au grand public que la discothèque de Radio France, c'était un fonds très riche, qu'on avait des trésors et que c'était important aussi de le préserver. Bien sûr, on a gardé au moins un exemplaire de chaque disque.
« Depuis les années 60, c'est au cœur de la maison de la radio que la discothèque s'était installée. Et puis, les travaux à Radio France l'ont contrainte il y a 15 ans à déménager ses bureaux dans une rue voisine et ses réserves dans le nord de Paris. C'est donc aujourd'hui 1 million de disques physiques, des cylindres ou CD apparus dans les années 80, à quoi il faut ajouter 3 millions de fichiers numérisés, c'est-à-dire le fond ancien numérisé petit à petit et les nouveautés, car cette collection ne cesse de s'enrichir au rythme de 500 albums par mois. Les documentalistes comme Loïc Delacour s'y emploient.
Déjà, on en reçoit par les maisons de disques, donc on les sélectionne, on rentre pas tout. Et c'est pareil pour les achats, on est obligé de faire un choix en fonction des couleurs des antennes. On sait à peu près la couleur musicale. Par exemple, on n'achète pas beaucoup de métal. C'est pas une couleur qui est vraiment disponible sur les antennes de Radio France, quoique ça peut l'être. Il y a des nuits métal sur FIP de temps en temps. On essaie de s'adapter. Là, dernièrement, j'avais acheté de la K-pop, la pop japonaise ou coréenne. Ça passe pas sur les antennes, mais il y a eu un dossier, un podcast sur France Inter, par exemple.
Voilà qui nous rappelle l'essentiel. Au-delà de sa valeur patrimoniale, cette collection exceptionnelle est bien vivante pour les besoins des radios publiques. 1000 titres y sont diffusés au quotidien et des chauffeurs font la navette 4 fois par jour depuis les réserves avec des brassées de disques. Pour les disques les plus anciens, un passage par la cellule restauration de la discothèque s'impose avant toute diffusion. C'est là que Jean-Marc Potry les bichonne.
On a 78 tours d'un groupe qui s'appelle Mélodie Tam Tam. Donc la première chose qu'on fait, on le nettoie. Et ensuite, c'est essayer de donner la meilleure qualité possible à la disposition des chaînes. Et donc, il va falloir qu'on voit à chaque fois par rapport au diamant à choisir, par rapport au filtre à mettre, par rapport à la vitesse, s'il y a des raccords à faire. En plus, on a à numériser et restaurer des disques qui sont allés aux antennes. Ça passait d'un studio à un autre. On peut avoir un vinyle où on a beaucoup de travail parce qu'on va avoir des cloques, des clics, donc beaucoup de choses à retirer pour essayer de restituer la musique au plus près du pressage original.
Voilà un disque de 1954 que pourrait bien utiliser un jour Amaury Chardot. Son émission Jukebox mêle histoire et musique sur France Culture. C'est l'une de celles qui puise le plus dans les réserves de la discothèque.
Moi, je vais dire par exemple, tiens, je vais essayer de raconter la guerre au Vietnam en 1967, ou bien les cabarets orientaux qui ont essaimé dans le Paris des années 1940-60, dans les quartiers bourgeois. On est en pleine vague de l'orientalisme, c'est une fascination qu'a le grand public, bientôt sortira Laurence d'Arabie avec Omar Sharif, et la France s'entiche de ces musiques arabes qui vont métisser des styles en vogue à l'époque, c'est-à-dire le cha-cha-cha, le jazz, etc. Et donc, l'émission propose de redécouvrir cette page un peu oubliée de la musique. C'est tout l'intérêt d'avoir des gens dont c'est le travail. Les documentalistes de Radio France, ils ont une culture musicale qui est très large, qui est très éclectique, et certains ont leur spécialité. Surtout que l'idée, c'est d'éviter de diffuser simplement les tubes, les trucs que tout le monde va connaître. C'est de donner à entendre chaque semaine une quinzaine de titres dont on peut estimer que les trois quarts, les auditeurs, les ont jamais entendus.
Retour aux entrepôts de la discothèque, à une adresse tenue secrète pour ne pas attirer les convoitises. Romain Couturier est l'un de ces documentalistes qu'Amaury Chardot et d'autres envoient régulièrement à la chasse au trésor.
Donc c'est vrai, les producteurs nous contactent, que ce soit pour des jingles, pour de l'illustration sonore, et ça peut être aussi bien parce qu'il y a un invité qui vient, il veut écouter tel morceau, donc ils en ont besoin, aussi bien des nouveautés ou des choses anciennes. Donc pour les nouveautés, on va les acheter sur les sites marchands. Pour les choses anciennes, eh ben, on vient ici pour les fouiller et essayer de les trouver et de les faire numériser, parce qu'il y a des dizaines et dizaines d'enregistrements ici qui sommeillent, qui existent, et un jour ou l'autre, on peut en avoir besoin. Et l'autre jour, j'avais une mission, enfin, qui m'a occupé pendant quelques semaines sur Napoléon, parce que cette année, on célèbre les 200 ans de la mort de Napoléon. Donc voilà, donc j'ai fait un état des lieux de tout ce que nous avions sur Napoléon. Donc c'était quand même énorme. Je crois qu'il y a à peu près plus de 400 morceaux, donc aussi bien la musique militaire que des choses humoristiques autour de Napoléon.
Napoléon, folie! Ceci est l'histoire véridique de la vie de Napoléon Bonaparte. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite.
Mais pour les retrouver, ces pépites, encore faut-il les avoir bien rangées. À la discothèque, il n'y a pas que des disques, il y a aussi des fiches. 6 millions de rectangles blancs et roses. Jusqu'à l'arrivée de l'informatique dans les années 80, c'est sur ces fiches qu'étaient notées à la main toutes les informations concernant chaque disque. Elles sont encore très utiles pour le fond ancien, mais bien moins détaillées que ne le sont aujourd'hui les fiches informatisées.
On essaye de renseigner en fait toutes les informations dont on dispose sur cet album. Donc le compositeur, le parolier, l'arrangeur, le producteur. Après il y a la notion d'interprète. On va vous décrire ce que fait la personne. Si elle chante, si elle joue d'un instrument, il y a toute la partie sur les titres des chansons. Indiquer aussi les reprises ou les autres versions. On va rajouter des mots-clés. Parce que lorsqu'on a besoin d'une recherche sur une émission sur l'avortement, on veut des chansons là-dessus. Faut-il qu'on ait décrit auparavant ces chansons-là. On met bien sûr un genre, quel genre musical. Il y a aussi des sous-courants, c'est-à-dire on met rock et courant, vous mettez psyché, vous mettez rock progressif, ainsi de suite. Et alors notamment sur le hip-hop actuel, qui est quand même l'horreur pour nous, si je puis dire, avec énormément de featuring, d'invités qui viennent à jouer sur les morceaux, c'est vrai qu'à décrire, ça peut prendre une bonne journée.
Je vais céder le micro à Jean Cocteau, qui va interviewer lui-même son interprète, Édith Piaf.
Je me demandais toujours à qui ressemblait Édith Piaf, qui elle me rappelait, pourquoi elle était si émouvante.
Et c'est bien grâce à ce travail de fourmi que l'on peut aujourd'hui écouter Édith Piaf interrogée par Cocteau pour son premier rôle au théâtre, ou Amadou Ampateba racontant son enfance à Bandiagara. Car il n'y a pas que de la musique à la discothèque, il y a aussi des voix illustres et une incroyable collection de disques de bruitage enregistrés par les techniciens de l'ORTF. Thomas Henry, le responsable des collections.
Alors je rouvre le compactus.
Et alors effectivement, on a une collection qui pour le coup est vraiment spécifique à la radio. Tous les disques de bruitage qui étaient utilisés sur les antennes pour sonoriser certaines émissions, des reportages, des fictions aussi. Il y a beaucoup de bruit, c'est un espèce de catalogue. Vous voyez,
des moteur modèles... Citroën.
Voilà, exactement. À moins que vous ne préfériez une Peugeot, une Jeep, la 2 chevaux bien sûr, avec ambiance extérieure, démarrage, ralenti du moteur, départ, passage avec klaxon. Donc là, j'ai pris l'exemple des moteurs de voiture, mais on peut avoir des bruits de la nature, hein, ruisseaux, cascades, la comédie française, l'ambiance de la salle, l'ambiance du hall avant le spectacle, les applaudissements, l'ambiance de la savane, forêt vierge en Cochinchine, donc en Asie du Sud-Est. Tous ces disques ont été utilisés pour sonoriser des reportages ou pour des fictions, parce que c'était une part importante de ce qui était diffusé sur les antennes, des bruits d'ambiance pour recréer ça.
C'est bien un trésor qui s'est construit ici au fil des ans. Rien qu'en rachetant par exemple la collection Wolf, du nom d'un passionné de disques tombé dans l'oubli. Pas moins de 5078 tours et des musiques des quatre coins du monde.
Charles Wolf, qui est mort à la fin de la guerre, était journaliste, militant politique, antifasciste et résistant. Et sa famille a vendu à la radio en 1945 sa collection de disques qui était absolument colossale. Et donc grâce à lui, grâce à ce collectionneur qui était passionné de folklore des quatre coins du monde, la discothèque du coup a de très nombreux disques d'Afrique, d'Asie, des Antilles, d'Océanie, des quatre coins du monde. Là, j'ai entre les mains un disque d'une série enregistrée à Londres en 1927. C'est la première série de disques commerciaux de musique d'Afrique. C'était des chanteurs ghanéens et nigérians qui vivaient à Londres qu'on a enregistré. Ça, c'était un disque malgache, pareil 1930, de musique traditionnelle de Madagascar avec des chants et de la valise. Très, très beau. C'est quand même des disques rares, voire très, très rares. C'est un peu ce qui fait la spécificité, une des spécificités de la discothèque de Radio France.
Une collection que la discothèque s'efforce désormais de valoriser aussi au cours d'expositions mitonnées par ses documentalistes comme Romain Couturier, passionné de leur métier.
Pour moi, cette cathédrale de béton et de métal, et c'est plutôt la caverne d'Ali Baba. Vous allez dans un rayonnage et vous tirez un disque et vous tombez sur quelque chose que vous ne connaissez pas parce que c'est impossible de tout connaître. C'est sans fin. C'est vertigineux et en même temps hyper jouissif. Fine anyway, I don't need you to stay, I
don't want you to go away from me. À la chasse au trésor dans les allées de la discothèque de Radio France, un grand reportage de Sarah Tisser, réalisation Pierre Chaffange. I'm
fine anyway. I don't need you to stay. I don't want.